Bonjour à toi, à toutes et à tous. Nous sommes au milieu déjà, le septième jour du mois de Iyar, et nous sommes dans la paracha, deux parachutes cette semaine, Acharimot et Kedoshim. On va voir après, comme on a mentionné que dans la Torah, il y a 54 parachutes, voire 53, il y a certains qui le comptent comme deux parachutes, et ils ont été divisés, mais normalement, on va dire qu'il y a 54 parachutes, et ces 54, il n'y a pas assez de Shabbat disponibles, parce que il y a moi, 2 semaines disponibles, et en plus, il y a parfois où la fête tombe Shabbat, donc à ce moment-là, on ne va pas lire la paracha donne l'ordre où on lit. Alors il nous manque et parfois on met deux parachutes ensemble. Cette semaine, on va lire donc deux parachutes, une qui s'appelle Acharimot et une qui s'appelle Kedoshim. C'est intéressant que d'une part, ils sont carrément différents, mais d'une autre part, il y a des choses qui se répètent. En fait, pas vraiment se répètent, mais on parle du même sujet un petit peu. Peut-être on va voir ça. Mais on va commencer par le fait qu'on est dans le mois d'Iyar. Dans la Torah, ce mois d'Iyar, on l'appelle le deuxième mois. Et le deuxième mois après le mois de Nissan, car le mois de Nissan est considéré comme le premier mois de l'année. Alors, on a vu plusieurs fois que l'année a deux têtes. L'année naturelle, c'est plutôt lié avec le mois de Tishri, qui d'ailleurs correspond un petit peu au mois de septembre ou octobre. Par contre, l'année plutôt juive ou bien miraculeuse, elle y est plutôt avec le mois de Nissan, qui correspond plutôt au mois d'avril, à peu près. Alors, Nissan, donc, c'est le premier mois, Iyar, donc, c'est le second mois. Et, alors, il y a un paradoxe. D'une part, le mois de Nissan, comme on l'a vu déjà la semaine dernière et avant, correspond à cette notion de naissance miracle, ou bien quelque chose de non naturel, quelque chose de non habituel. C'est ça, quelque chose qu'on le remarque, on le remarque, ça c'est une notion de naissance, quelque chose de haut, qu'on voit différemment. Ça aussi, c'est le sujet de la fête de Pessah, la notion de faire quelque chose d'inhabituel, de sauter les étapes. C'est pour ça que Pessah, ça veut dire, comme on dit en anglais, Passover, Pâques, Passover, ça veut dire dépasser les limites, dépasser ou passer la logique. Et c'est ça, toutes les notions de Pessah, comme quelqu'un qui était esclave et de l'esclavage, il est sorti vers une liberté. Donc, c'est une extrémité, d'une extrémité à l'autre. Normalement, dans la vie, on avance étape par étape. Et là, on était dans une situation matérielle comme spirituelle. Dans un état plutôt très bas. Et ensuite, des jours au lendemain et même d'une minute à l'autre, on est sorti d'une situation à l'autre. Et ça, c'est le symbole de Pessah. Et ça, c'est le symbole de tout ce qui est autour de Pessah, comme la matzah et d'autres choses, comme on a vu déjà la semaine dernière. Mais ça, c'est vrai pour la fête de Pessah, c'est vrai pour tout le mois de Nissan, mais en même temps, dans la fête de Pessah, tout de suite, le lendemain du premier jour de Pessah, donc à partir du deuxième soir de Pessah, on commence à compter le Homer. En fait, c'est une notion, Homer, c'est une sorte de sacrifice, mais nous, on va prendre les symboles et les symboliques de cette notion qu'on compte jour après jour. Ça veut dire que là, d'un coup, on rentre dans l'ordre. Alors, si l'idée de Pessah était de sauter les étapes, alors l'idée de ce qui suit Pessah, c'est l'idée d'avancer étape par étape. On avance étape par étape. D'une part, au niveau des chiffres, le premier jour, c'est le premier, et ce n'est pas le deuxième. Le deuxième jour, c'est on a 2 jours, ensuite on a 3 jours, etc. Au niveau spirituel aussi, on sait que chaque jour a comme but de changer notre attitude. On sait que l'homme doit travailler sur ses sentiments. On n'est pas parfait, personne n'est parfait. Et c'est une période où on travaille sur nos sentiments, sur nos comportements. C'est pour ça que les premiers jours, on travaille selon les notions kabbalistiques. Et d'ailleurs, c'est moi qui donne nos prières. Certains les prononcent. Le premier jour, c'est lié avec la bonté de la bonté. Le deuxième jour, est lié déjà avec la rigueur de la bonté, etc. Et comme il est marqué, c'est marqué en détail, qu'on avance étape par étape. C'est vrai qu'on avance comment? En lisant. C'est vrai que la mitzvah, donc le devoir à ce moment, c'est lire certaines choses, compter certaines choses. Est-ce que par le fait que je compte, je change? Alors ça, c'est une grande question, effectivement. Mais en tout cas, ça symbolise, en tout cas, c'est l'homme qui doit faire le travail sur soi-même, mais ça symbolise une notion d'avancer jour après jour. Donc alors, on est dans le paradoxe que d'une part, Pessah représente une notion de sauter, et d'une autre part, le lendemain de Pessah, ça représente une idée d'avancer étape par étape, ne pas sauter les étapes, étape par étape. On ne peut pas passer de 1 vers 3 sans passer par les deux. Donc alors, c'est carrément opposé à l'idée de Pessah, que là on dit qu'on saute toutes les étapes. Par contre, le lendemain, on avance étape par étape. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que parfois, il faut sauter les étapes parce qu'on n'a pas le choix. Mais le but, c'est qu'on puisse finalement amener ces grandes idées dans notre monde où on habite, dans notre monde où on réside, dans notre monde où on est. Donc alors, d'une part, on nous demande de grandes choses, de sauter les étapes, et d'une autre part, on nous demande d'être très naturel, étape par étape, très logique. Un des exemples qu'on peut donner parfois, que normalement, à l'époque, quand quelqu'un devrait acheter une maison, donc il devrait tout d'abord travailler pour avoir, pour pouvoir acheter la maison. Donc, une fois qu'il a travaillé beaucoup, à ce moment-là, il avait assez d'argent pour acheter une maison. Aujourd'hui, on arrive à changer le. On arrive en tout cas dans certaines catégories, et certaines personnes arrivent à faire que tout d'abord, ils payent leur maison en crédit, et ensuite, ils la vendent étape par le payer vraiment. Donc, alors, ça, c'est une notion de sauter les étapes. Mais l'idée, c'est que d'une part, j'ai reçu un cadeau ici. Ce n'est pas quelque chose qui est à moi. C'est quelque chose que je n'ai pas reçu grâce à mon intelligence, grâce à mes efforts. J'ai reçu en sachant que finalement, je vais rembourser. Mais d'une autre part, finalement, je rembourse. Donc, alors, c'est un petit peu l'idée de Pessah. D'une part, on nous donne quelque chose qui n'est pas à notre niveau. On nous donne de là-haut. Dans notre cas, c'est Dieu qui nous donne. Mais ensuite, on rembourse. Ça veut dire. Il faut finalement que ce soit les nôtres, nos qualités, nos travails. C'est pour ça que c'est ça le paradoxe, mais c'est un paradoxe qui l'a rempli l'autre. D'une part, on nous donne quelque chose de grandiose, d'une autre part, ça devient à nous parce que c'est un travail étape par étape et c'est notre travail. De là, on peut avancer. D'ailleurs, on avance étape par étape jusqu'à le jour de Shavuot, le jour de don de la Torah, qu'à ce moment-là, à nouveau, on nous donne un niveau au-delà de nos capacités, et c'est ça la Torah, et on nous demande d'avancer ensuite étape par étape. Ça, c'est un petit peu cette période qui se suit. Alors, de là, on va arriver à cette paracha, à notre paracha, que la paracha, d'une façon générale, la première paracha, elle parle de ce qu'on fait et comment on fait le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est un jour très saint. Et c'est des choses qu'on ne fait pas, ce qu'on fait habituellement. On est beaucoup plus sain que toute l'année. Déjà, on ne mange pas, mais il y a d'autres choses qu'on fait. Et dans la paracha, on nous raconte quel était le travail dans le temple par le grand prêtre le jour de Kippour. Ensuite, on parle d'autres choses qu'on va lire le jour de Kippour, le mariage interdit. Et on lit aussi le jour de Kippour, mais on passe quelque part d'une extrémité à l'autre. D'une part, on parle de choses de très haut niveau, et d'une autre part, on parle de choses de très bas niveau. Mais en fait, dans la vie, il faut savoir affronter tous les problèmes et avancer. Alors, l'idée, c'est que au début de cette paracha, alors peut-être il faut avancer ce qu'il y a avant. On est déjà dans la quatrième paracha de ce livre qui s'appelle Vaïkra. On a lu Vaïkra, ensuite Tzav, ensuite Shmini, pardon, c'est pas la quatrième. Vaïkra, Tzav, Shmini, Tazria, Metzora, donc on est à la sixième. Achareimot. Cette paracha, elle commence par que Dieu l'a dit à Moshe, après la mort des deux enfants d'Aaron, lorsqu'ils se sont approchés à Dieu, et ils sont morts. Ça veut dire quoi? Et la Torah nous donne plus d'informations par rapport à ça. Des informations par rapport à ça. Et il a marqué ensuite, donc, Dieu dit à Aaron qu'il ne rentre pas à chaque moment dans le sanctuaire, qu'à ce moment, et qu'avec ces conditions qu'il a marquées dans la paracha. De quoi s'agit-il? Pourquoi les enfants d'Aaron ils sont morts? Alors, ça, c'est marqué déjà dans la troisième paracha de notre livre, la paracha Shemini. On nous raconte l'inauguration du temple et que c'était très grandiose et on avait la manifestation de Dieu qui est manifestée par différentes choses, y compris par le feu qui tombait du ciel. Et là, les drames arrivent. Après la grande joie, il y a les drames qui arrivaient. C'est que les deux enfants d'Aaron, donc le grand prêtre, ils ont rentré dans le sanctuaire, ils ont fait un travail spirituel, donc une sorte de sacrifice qu'on ne leur a pas demandé, et à ce moment-là, il y avait un feu qui est sorti, et ils sont morts. La Torah ne nous détaille pas exactement ce que ça veut dire, on a quelques commentaires, est-ce que c'était une punition? C'est vrai qu'il y avait des punitions, il y avait un manque de respect pour Moshe, etc., etc. Mais nous, on va voir l'aspect plutôt spirituel, qu'on considère les enfants d'Aaron comme les tops des tops au niveau spirituel. Et donc, justement, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut parfois ne pas aller trop loin dans certains domaines, y compris dans les notions spirituelles. Alors là, on peut donner l'exemple très simple. Quand on a affaire avec l'électricité, il faut le prendre avec beaucoup de précautions. On ne touche pas à ma propre électricité, bien sûr. Et on fait attention de ne pas toucher les tensions hautes. Il y a des choses qu'on peut supporter, mais il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Au niveau spirituel aussi, il y a cette notion qu'il faut savoir aller doucement. Il ne faut pas aller trop vite dans certains domaines. Parce que même si que les choses que je vais vers lui, c'est quelque chose de très positif, c'est grandiose, c'est très spirituel. Là aussi, on a un devoir de prendre un recul, de stopper, d'aller pas trop vite. Parce que là, on fait des choses contre la vie. La vie est basée sur la notion de limite. Il faut savoir son limite. Là où il faut aller, là où il ne faut pas aller. Lorsqu'il faut aller vite, lorsqu'il faut aller doucement. Là, la faute, donc. Les enfants d'Aaron, c'est qu'ils n'ont pas mis les freins là où il faudrait mettre les freins. Et je m'explique. Et au niveau, il y a tout ce qui touche un petit peu dans notre monde, il y a des plaisirs. En fait, c'est juste un exemple, ce n'est pas vraiment l'explication, mais c'est une image, une idée, un exemple qui donne un petit peu l'idée de quoi s'agit. Donc on a dans notre monde des différents plaisirs. L'homme il cherche le plaisir, c'est faire plaisir. Alors il y a plusieurs. Est-ce que c'est ça le but de la vie d'avoir des plaisirs? Mais en tout cas, on est dans un monde où les gens ils aiment avoir plaisir. Il y a un plaisir qui est basé sur la nourriture. On mange un bon plat, donc il y a le plaisir. Mais il y a des plaisirs un petit peu plus spirituels. Et ces plaisirs font que la personne il sort un petit peu hors de soi. Il y a ce plaisir de la musique. Quelqu'un qui aime la musique, en fait, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'aime pas la musique. Il y a des différentes sortes de musique. Il y a des gens qui rentrent dans la musique, ils deviennent fous. Ils font des choses, des gestes qu'on ne fait pas lorsqu'on n'est pas dans la musique. La musique, elle est là pour nous amener ailleurs. Donc, alors la musique, souvent, nous sort hors de nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui nous donne une idée. Qu'est-ce que c'est La musique, comment on peut le considérer comme une notion un petit peu spirituelle, qui dépasse les plaisirs matériels. Et donc, à ce moment-là, puisque c'est quelque chose de très puissant, il dépasse nos logiques. C'est tout simplement, vous allez voir quelqu'un qui danse avec la musique. Alors, enlevez la musique, vous voyez juste les gestes de la personne. Vous avez l'impression qu'il se comporte bizarrement, il fait avec les mains, les pieds, comme ça. Mais lorsque vous allez à la musique, vous allez vous aussi, vous rentrez dans l'ambiance, à ce moment-là, vous allez comprendre les gestes qu'on fait. Parce que pourquoi? Parce que on dépasse nos limites lorsqu'on écoute la musique, parce que c'est une notion un petit peu spirituelle. Là aussi, il y a plusieurs notions spirituelles et que parfois, l'homme, il pénètre dans ce monde spirituel et quelque part, il laisse tomber un petit peu la logique matérielle. Il y a les gens qui aiment méditer. Donc, il y a toutes sortes de méditations et parfois, ils dépassent la logique. Ils font des choses. Moi-même, je connais pas trop bien ce monde, mais en tout cas, il y a ce monde qui sort les gens de leur logique, de leur comportement normal. Pourquoi? Parce que lorsqu'on touche la spiritualité, on sort un petit peu de ce monde, si on peut dire comme ça. Alors, bien sûr que ça existe dans de différentes choses dans notre monde, qu'on peut dire que c'est des choses spirituelles dans notre monde matériel. Alors, si on s'agit de la spiritualité pure et nette, où est-ce qu'on trouve cette spiritualité? Dans le judaïsme. Donc, les gens qui ont un goût, ça peut arriver aussi d'ailleurs dans le monde intellectuel. Lorsqu'on rentre dans un sujet intellectuel très profond, on s'oublie. On oublie qu'il faut manger. Et ça peut poser un problème parfois. Quelqu'un qui est tellement dans l'étude qu'il oublie son corps. On raconte notre maître qui était un homme très intellectuel, très profond, très clair. C'était rare. C'était une personne rare. Parmi les personnes rares, il était rare. Il était celui qui enseignait la Torah, en fait, l'enseignement du rabbi, il enseignait aux autres. Parce que le rabbi, il a parlé, le rabbi de Lubavitch, parfois des choses très très profondes. Et les gens écoutaient, mais c'est vrai que c'est lui qui a compris d'une façon profonde. Donc, même si c'est profond, on écoute quelque chose, on voit pas, on voit les détails, on voit pas la profondeur de la chose. Lui, il savait. À tous ces gens de haut niveau, lui, il était leur maître dans le mouvement Chabad. Donc, c'était lui qui, après 2 heures des explications du rabbi, il la répétait. Ce que le rabbi disait, bien sûr qu'il y avait des gens autour de lui qui parfois corrigeaient telle et telle chose, mais lui, il était le moteur de cette idée. En tout cas, c'était un homme très, très intellectuel. Il était parfois enfermé parce qu'il a travaillé sur des sujets. Le rabbi lui a donné sur lui une responsabilité de travailler sur des sujets chassidiques qu'il faudrait les mettre en encyclopédie, donc des choses très profondes, de mettre en tant qu'encyclopédie. Donc, il a fait quelques tomes, mais loin de tout, en fait, de ce qu'il devrait faire. Mais en tout cas, c'était un homme qui était prêt, parfois enfermé pendant quelques jours. Bien sûr qu'il a utilisait le minimum. Et il a été approfondi dans le sujet. C'est des choses assez rares. Il y a des gens comme ça, mais c'est des choses assez rares. Donc, on trouve dans notre vie des gens qui sont dans la vie spirituelle et ils oublient leur manque matériel. On trouve ça dans d'autres domaines. Il y a des gens profonds. Je connaissais une personne comme ça, je connais, il y a aussi quelqu'un de ma famille qui devrait faire une opération difficile, c'était dangereux de l'endormir. de l'anesthésie. Donc, il était d'accord qu'on lui fasse cette opération, qui était compliquée. Sans anesthésie, et il a dit, mais dites-moi un moment après que je vais me balader dans mes pensées profondes, et à ce moment-là, je ne vais pas sentir. C'est des gens qui habitaient parmi nous, qui sont capables de pénétrer dans la profondeur et dans la spiritualité. Donc ça, c'est un petit peu un monde dans notre monde, un monde spirituel dans notre monde, que chacun peut pénétrer dans ce monde, mais pour ça, il faut avoir le temps, il faut avoir la tranquillité, le pouvoir la possibilité de pouvoir pénétrer dans une profondeur, etc. Donc alors, comme ça, la chassidoute explique que les enfants d'Aaron, donc c'était des gens très spirituels, extrêmement spirituels. Donc, ils ont pénétré dans le monde spirituel et ils n'ont pas fait sans aller en retour. Ça veut dire que même le fait même de pouvoir de rentrer dans un monde spirituel, de ne pas prendre des précautions, de ne pas retourner en arrière, c'est une faute. Parce qu'on vit dans un monde matériel. Il faut vivre dans ce monde matériel. On a un devoir dans ce monde matériel. Quelque part, il faut savoir de faire ce que s'appelle aller et retour. Aller vers la spiritualité et retourner vers notre monde matériel. Et ça, on a quelques histoires. Il y a une histoire chassidique qui raconte qu'il y avait le grand rabbi, le Maguid Mezritch, celui qui a remplacé le Baal Shem Tov, et que il a étudié avec le premier rabbi de Chabad. Et l'autre, donc il s'appelait Rabbi Avraham, on l'appelait Rabbi Avraham Amalach. Rabbi Avraham, l'ange, parce qu'il se comportait comme un ange, ça veut dire qu'il était trop spirituel dans son esprit, il était plutôt dans cet esprit, donc on l'appelait Avraham l'ange. Une fois, il a étudié avec son ami, donc le premier rabbi de Chabad. Et le rabbi de Chabad, qui n'était pas encore rabbi, il était encore jeune, il a senti qu'il s'envole. C'est un peu un danger pour lui, qu'il va trop loin dans la spiritualité. Donc il a mis des bagels, en fait, il a mis une nourriture doux dans sa bouche. Et comme ça, l'autre, il est revenu vers la matérialité. Je ne sais pas si je suis capable d'expliquer ça, parce qu'il faut pénétrer dans ce monde pour comprendre, mais on a des exemples dans notre monde matériel qu'il y a des gens qui pénètrent dans une notion spirituelle et ils ne retournent pas, ils sont ailleurs. Pardon. On a des gens parmi nous qui sont dans la spiritualité et donc ou bien dans la pensée ou bien tout ce qu'on peut donner cet esprit et ils s'oublient, ils sont habillés mal. Ça, c'est déjà un autre exemple. Ils sont mal soignés, il y a cette expression que dit un professeur qu'il est forfelu. Pourquoi? Parce que puisqu'il est trop dans l'esprit, donc il remarque pas, il est un petit peu loin de ce monde logique avec ses logiques. Alors pour revenir donc à notre sujet, il y a la faute des enfants d'Aaron était d'être trop spirituel et surtout ces jours. C'est pour ça que c'était leur faute. Il faut aller vers la spiritualité, mais il faut aussi ne pas quitter ce monde. Il faut vivre dans ce monde. Il faut bien être installé dans ce monde. Il y a cet esprit chassidique qui dit qu'il faut avoir la tête dans le ciel et en même temps les pieds sur terre. Alors, c'était ça leur faute d'être spirituel sans retour. Donc, alors, c'est pour ça que dans la troisième paracha dans notre livre de Lévitique, il est marqué là-bas, après la faute, c'est faute, il est marqué qu'il ne faut pas boire du vin lorsque vous rentrez dans le sanctuaire. Et on explique que leur faute était qu'ils ont bu du vin. Le vin nous aide à aller vers la spiritualité, à être un petit peu plus élevé, en tout cas pour certaines personnes. Le vin, il nous amène vers un autre, comment s'appelle, d'autres termes, chacun selon son niveau. C'est quelqu'un qui est très bas. Alors le vin, il va lui amener à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Et quelqu'un qui est spirituel, le vin, il va l'amener à aller au bout de cette idée, de ces idées spirituelles. Et ça, ce n'est pas bon parce qu'il faut vivre dans un monde matériel. Donc, alors, ça, c'est un petit peu l'esprit juif d'être spirituel et amener la spiritualité dans notre monde matériel. Ça, c'est une idée très générale aussi. Il faut avoir l'équilibre, à savoir aller loin et pourtant rester dans ce monde matériel. Alors donc, c'est pour ça qu'après la faute des enfants d'Aaron, il est marqué qu'il ne faut pas boire le vin lorsque vous rentrez. Ça veut dire que comme ça, vous allez avoir, comme si on va dire à quelqu'un, mais ça c'est déjà une notion très matérielle, quand on va prendre la route, on ne prend pas du vin. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas voir très clair. Là aussi, on est, même quand on pénètre dans un monde matériel et spirituel, il faut savoir voir clair et savoir où, jusqu'où. Et dans notre paracha, la paracha commence par, encore une fois par qu'il a dit aux enfants d'Aaron, il a dit à Moshe de dire à Aaron de ne pas rentrer tout le temps dans le sanctuaire, donc le saint des saints, qu'à ce moment. Alors là aussi, c'est la même chose, il faut avoir des limites dans les notions spirituelles. Donc ça, c'est une paracha donc, qui parle de cette limite, de cet équilibre. Alors si on revient aux premières notions de ce qu'on a commencé, que Pessah nous demande deux choses. D'une part, il nous demande de s'envoler, mais d'une autre part, il nous demande d'être très attaché aux matérialités. Donc elle est étape par étape. D'une part, on nous demande d'aller très très loin, mais d'une autre part, tout de suite après, revenir. Il y a une anecdote chassidique. On sait que le jour de Simchat Torah, il y a beaucoup de joie. L'extrait, quand ça dit la joie, on parle de la spiritualité, parce que la joie, c'est un récipient pour la spiritualité. Donc le cinquième rabbi de Chabad, en tout cas on raconte sur lui, qu'avant cette grande joie dans la synagogue, il allait dans sa chambre pour étudier ce que s'appelle Choshen Mishpat dans la Torah, la notion qu'on considérait dans la Torah comme les choses les plus matérielles. On parle de tout problème entre des gens, entre la justice. Ça veut dire que quelque part il voulait, après les notions très spirituelles, revenir sur terre. Parce que ça, c'est l'esprit du judaïsme. D'une part, être très spirituel, mais d'une autre part, rester contacté à ce monde, et non pas seulement à ce monde d'une façon générale, être très présent dans ce monde. Pour terminer cette idée, ça, c'est l'idée plutôt... Aujourd'hui, on a du mal, parce qu'il y a des gens qui... S'ils sont matérialistes, ils sont matérialistes. Quelqu'un qui est très spirituel, parfois, il est un petit peu éloigné de ce monde. Mais le rêve, en fait, pas seulement le rêve, l'idée messianique, c'est avoir les deux notions en même temps, être très, très, très spirituel et en même temps dans un monde très, très matériel. Et c'est pour ça qu'on sait que dans le monde libération, le monde Géoula, en hébreu, c'est un monde qu'on a dans les mêmes lettres, tout et son contraire. Ça veut dire, si on enlève la lettre Aleph, ça nous parle de tout ce qui est galout. Galout, ça veut dire tout ce qui est limite, tout ce qui est. Tout ce qui représente l'idée d'être limité, d'être en exil personnel, en exil général, en exil, ça veut dire tous les problèmes du monde. Mais si on rajoute un Aleph, la lettre Aleph qui représente la lumière, ça représente la divinité, qui représente beaucoup de choses positives, alors à ce moment-là, je quitte pas ce monde. Je reste dans ce monde, mais j'amène une lumière dans ce monde. À ce moment-là, tout change. Comme si, parfois, une petite lumière, lorsque je mets là où j'ai besoin d'utiliser, alors, j'ai un livre, j'ai une pièce avec beaucoup de livres. Mais si je n'ai pas la lumière, je ne peux pas l'utiliser. Et si j'ai la lumière, alors d'un coup, tout change. C'est pas que j'amène d'autres livres, c'est pas que je changeais quelque chose, mais je changeais tout avec la lumière. C'est ça un petit peu l'idée, que savoir utiliser la lumière de telle manière que quelque chose qui avant était parfois catastrophique devient quelque chose de positif. Donc c'est ça un petit peu le message de cette période, à savoir qu'on vit dans un monde, que dans ce monde on a beaucoup de problèmes, mais si on sait amener la lumière, alors à ce moment-là, tout change. Comme parfois, il y a des gens qui se disputent, et les gens qui sont de côté, ils disent, mais ils ne sont pas dans le même monde, ils ne partent pas sur le même rail, ils ne partent pas sur le même chemin, chacun, ils voient les choses différemment. Mais si on va l'éclairer, alors à ce moment-là, on va voir que pas du tout, ils ne sont pas opposés. Donc, alors, c'est ça qui nous manque dans notre monde, un petit peu d'éclairage. À ce moment-là, même beaucoup d'éclairage, mais à ce moment-là, il faut amener la grande spiritualité dans un monde très matériel et que les deux cohabitent. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.